Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
J'ai un petit problème avec les génériques. Vous avez eu un orchestre, vous avez eu un orchestre de génériques. Je suis désolé. Donc je vais parler de c'est moins drôle. Désolé. Je vais parler de la politique de Milei. Vous en avez peut-être entendu parler. J'imagine que vous en avez entendu parler de ce politicien fou armé d'une tronçonneuse. Peut-être déjà vu la vidéo quand il était encore en campagne, de Milei qui allume une tronçonneuse au-dessus d'une foule de passants dans la capitale argentine. Je vais parler de Milei. Il a fait ça d'ailleurs, c'était pour une métaphore, pour dire qu'il allait couper les aides sociales. C'était vraiment le grand enjeu de sa campagne. Il avait dit qu'il supprimerait le ministère de la Culture, le ministère de l'Égalité Hommes-Femmes, qu'il supprimerait les aides sociales pour venir en aide aux minorités ou aux femmes. Il supprimerait aussi les aides qui viennent en aide aux travailleurs et à la classe ouvrière. Bref, qui c'est Javier Milei? Javier Milei, c'est le cliché, le stéréotype d'une idéologie qui fait ses preuves de plus en plus dans les milieux populistes et les milieux d'extrême droite. Une idéologie qui est basée sur pas grand-chose matériellement, en réalité. C'est ce qu'on appelle le libertarisme, les libertariens. En gros, les libertariens, c'est des gens qui veulent se séparer de l'État, de toute aide sociale, mais en même temps qui est une idéologie qui est remplie de paradoxes. Les libertariens, ils veulent se séparer de l'État et de l'aide que peut apporter l'État, mais en même temps, on voit que quand une banque est en déficit et quand une entreprise est en déficit, et c'est ça notamment le néolibéralisme, c'est on va pas se cacher ou s'empêcher de prendre justement l'argent de l'État pour venir sauver des banques ou des entreprises. On va pas commencer à faire la liste des exemples de ça, mais la banque suisse, il y a pas si longtemps. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Ou notamment le libertarisme sont contre l'intervention de l'État, mais en même temps sont pour des politiques ultra protectionnistes concernant les militaires ou les policiers ou la justice. Donc ils sont pas pour l'intervention de l'État au niveau social, mais ils sont vraiment pour l'intervention de l'État au niveau policier, au niveau de l'armée, au niveau judiciaire. Donc il y a certains paradoxes, et en réalité c'est ce qu'on pourrait appeler notamment du populisme en réalité, c'est-à-dire c'est des mots pour répondre à des questions de façon extrêmement rapide, sans grande matérialité, posée sur un ultra idéalisme qui n'a pas grand chose de palpable et de matériel en réalité. Ça fait que 2 mois qu'il est au pouvoir Milei, et aujourd'hui moi je vais vous parler des conséquences, et je vais vous parler, puis j'espère qu'on pourrait en discuter tous les trois également, mais des conséquences des 2 mois, enfin depuis ce matin, je crois que depuis le début de la semaine, c'est les 3 mois du pouvoir de Milei. Bon, en plus de ça, il faut savoir que l'Argentine, c'est un pays qui est déjà de base composé d'une dette et d'une inflation extrême. C'était déjà un pays d'une grande pauvreté, malheureusement. L'Argentine, c'est un pays qui a, comme je le disais, ouais, qui a écumé de nombreuses dettes. C'est un pays dans lequel il a toujours été compliqué en réalité pour la classe ouvrière de sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, lors de son arrivée au pouvoir le 15 décembre 2023, Javier Milei prenait les rênes d'un pays embourbé par une terrible crise, plongeant près de 45% de ses 45 millions d'habitants en dessous du seuil de pauvreté. Bon, voilà, c'est ça les conséquences des 2 mois. On parle de seulement 2 mois de pouvoir. Donc en seulement 2 mois de pouvoir, ce 45% de personnes plongées dans une extrême pauvreté est passé à 57,4%. Donc c'est 57,4% de la population qui est plongée dans ce qu'on appelle un cas d'extrême pauvreté. Donc c'est une hausse de 12 points, ce qui est un record en Argentine, qui était déjà un pays plongé dans la pauvreté. Derrière ce pourcentage, c'est 3 millions de personnes de plus qui se trouvent dans le désarroi. Face à cette énorme crise que vit la population, on a vu des immenses luttes sociales dans de nombreuses grandes villes d'Argentine. On a eu une politisation immense qui s'est développée en Argentine. Et comme je le disais, l'appauvissement généralisé est causé notamment par une inflation. Une inflation qui était déjà de 25,5% en décembre 2023. Je ne sais pas si on se rend compte, une inflation de 25,5%. Nous, on a eu quoi, 10% d'inflation au Canada dans les plus grands pics, c'était ça?
Ça dépend sur quelle échelle, mais...
Oui, ouais, ça dépend sur quel produit, là, mais à peu près 10%. Et ça a été terrible.
C'est difficile, ouais.
Je vous demande d'imaginer qu'est-ce que c'est un 25,5% d'inflation. Ça, c'était en décembre 2023. Lui, il a été élu le 15 décembre. Depuis son élection, on parle d'une hausse de 20,6% d'inflation. Enfin, c'est-à-dire que j'ose même pas imaginer ce que c'est. Je cite, entre novembre et janvier, le salaire réel des travailleurs du secteur formel a chuté de 20%. Ce qu'explique le journaliste Sébastien Premisi, excusez-moi pour mon espagnol, hein, ça fait longtemps que j'ai arrêté les cours d'espagnol. Les travailleurs, les retraités et les allocataires d'aide sociale ont vu leurs revenus complètement se désagréger, je le répète, chuter de 21%. On parle d'un pays qui était déjà dans une extrême pauvreté. Et là, on parle du fait que c'est-à-dire que c'est du jamais vu en 3 mois. C'est la quatrième fois depuis le début du mois que des mouvements sociaux ont lieu, complètement légitimement, en réaction à cette politique-là, et des mouvements sociaux qui exigent du ministère l'envoi de denrées alimentaires censées faire tourner les près de 40 000 soupes populaires réparties dans tout le pays, dont quelques 5 000 dans la capitale. La plupart d'entre elles sont administrées par des organisations qui protestent aujourd'hui devant le ministère, armées de drapeaux et de pancartes affichant, je cite, « la faim n'attend pas » ou réclamant une loi d'urgence alimentaire. Je cite encore « plus personne ne reçoit d'aliments depuis le mois de décembre, beaucoup de soupes populaires ne fonctionnent plus, plus que 2 jours par semaine au lieu de 5, certaines ont complètement arrêté de fonctionner », explique Dani Sanchez. Je ne sais pas si on se rend compte du niveau de crise sociale dans lequel il a plongé le pays. On est passé de 22 à 9% dans le cadre d'une cure austéritaire menée par sa politique de la tronçonneuse ultralibérale. On en voit les conséquences là, réellement. C'est-à-dire que c'est une demande de 40 000 soupes populaires demandée par des associations qui sont à la fois des associations sociales et à la fois des associations militantes. Dans la plupart des pays occidentaux, c'est 2 choses complètement séparées. Là, c'est lié parce qu'ils n'ont plus le choix tellement que la crise s'est intensifiée. Donc c'est-à-dire que le pouvoir et l'État est complètement dépossédé de la vie des travailleurs et des citoyens. C'est des organisations et des organismes communautaires qui sont en train de gérer les problèmes sociaux, qui sont en train de gérer la cause des travailleurs, la cause environnementale, la cause des femmes. C'est aussi la question de l'avortement, qui était déjà complexe en Argentine, mais qui avait vu des questions et des progrès, parce que le mouvement féministe avait réussi à gagner quelques causes qui va... le mouvement féministe avait réussi à légaliser, à être en voie de légaliser l'avortement en Argentine. C'est cette question-là qui est aussi remise en question. La question de la communauté queer dont on parlait hier, qui est attaquée fondamentalement en Argentine. Enfin, c'est-à-dire que là, on est dans un recul qu'on a jamais vu. Là, on est dans un retour vers le passé qui est du jamais vu. Et puis là, on parle comme ça... Je parle en tant qu'étudiant en politique qui s'inscrit moi-même dans les luttes sociales. Au-delà de la parole, je parle, mais je ne sais même pas si je vraiment me rends compte de ce que je parle. On parle d'une demande de 40 000 soupes populaires. On parle d'un taux de pauvreté dépassant 57% de la population. Je veux bien qu'on se rende compte, c'est ça les conséquences de la politique libertarienne, c'est ça les conséquences de la politique ultra-libérale et ultra-conservatrice, c'est ça les conséquences de la politique qui se bat contre les minorités, qui se bat pour l'oppression. Hier, on parlait de se battre pour la lutte contre toutes les formes d'oppression, et eux, ils se battent pour les oppressions, c'est-à-dire que c'est un retour en arrière qui est dingue. Il faut qu'on se rende compte de ça, c'est fondamental, il faut qu'on lutte, qu'on s'organise contre ça, c'est fondamental. Je vous laisse la parole. En fait, c'est une chronique et un coup de gueule. Hein. Vous avez remarqué, c'est une chronique et un coup de gueule. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des élections européennes bientôt qui s'en viennent et qui sont pas mal liées à ça. Le Front National en France soutient pas mal Milei. Trump est pas vraiment un ennemi de Milei non plus. Et sa politique envers l'avortement, envers la question sociale et la question des minorités s'en rapproche à bien des égards. Je parle de Trump, celui qui a dit qu'il serait le dictateur d'un jour. Ça en dit long sur notre politique internationale. C'est inquiétant. Et je sais pas vers quoi ça va nous mener. On en reparlera, mais ouais, je vous laisse la parole.
Ben en fait, on manque quand même
de
temps. Là,
c'est vrai qu'on a un petit peu... En même temps, on a beaucoup parlé de la question des taxes. Mm-hmm. Est-ce que vous avez juste un mot avant qu'on rende l'antenne?
Ben selon lui, c'est vraiment une récession qui est nécessaire pour afficher un déficit zéro, mais pour tous les impacts négatifs, là, ça vaut en aucun cas la peine. Puis je pense qu'il est juste tiqué sur le fait qu'il veut atteindre son objectif zéro, disant comme, ben moi c'était mon objectif, j'ai tout fait pour le remplir, parce que là il dit, ouais mais là ça va pas bien, mais éventuellement justement la récession ça va être moins pire, puis là on va pouvoir afficher un déficit zéro, mais à un moment donné il y a des conditions que la population peut plus endurer.
On parle de gens qui demandent du pain et de la bouffe. Mm-hmm.
Puis sur l'inflation, tu disais que c'était 25,5.
Ça a augmenté de 20 points d'inflation.
Oui, puis que les projections pour l'année 2024 sont pas super non plus. Ah, non, j'ai vu des chiffres qui parlaient de 150 à peut-être même 200%, ce qui serait plus haut que certains pays comme le Venezuela, entre autres, là, qui était à 145.
Ah oui, on pourrait en parler aussi, ouais, c'est clair.
Mais il faut dire, eux, ils ont une crise humanitaire qui, avec une crise politique
plus,
et une crise économique. Ouais, donc,
malheureusement, c'est le genre de sujet, j'aimerais en parler pendant des heures, mais le temps nous est compté. Le seul point que je veux dire pour conclure, c'est... Je trouve que l'argument ne se vaut tellement pas. À quoi bon vouloir rembourser la dette? On pourra en parler de cette question de la dette qui justifie pas mal de choses. Si c'est pour que 57% de ta population soit affaiblie et ne peut plus se payer à manger, nourrir ses enfants. Enfin, moi, je trouve que c'est un criminel. C'est quelque chose de criminel. Mais voilà. Je suis désolé. J'aurais aimé en parler bien plus, en discuter plus. Il faut que je vous laisse sur une page de musique, et aussi parce que dans quelques minutes, c'est toi, Marc-Antoine, qui va nous parler de l'élection américaine et du Super Mardi, eh bien, qui aura pas mal de conséquences sur la politique nationale et internationale également. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Merci.